Je suis d'accord avec toi. S'il y avait eu une phrase à isoler dans ce cantique que nous venons de chanter, c'est bien « C'est une source éternelle qui jamais ne tarira ». Je l'aurais volontiers isolée aussi. Alors, je propose qu'on revienne sur ce que nous avions évoqué ce matin dans le livre des Nombres. J'aimerais commencer par lire un passage dans Nombre 21. Nombre 21, à partir du verset 4. Je rappelle juste que la scène qui a été évoquée ce matin, donc avec ce serpent brûlant, le Fils de l'homme élevé sur la terre, est évoquée juste après, au verset 8. Mais j'aimerais juste m'arrêter sur un passage qui précède, donc à partir du verset 4. Les fils d'Israël partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Et le cœur du peuple se découragea en chemin, et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert, car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Voilà, juste ça. C'est un passage extrêmement synthétique, hein, qui nous donne très clairement un état des lieux de l'état du peuple à ce moment-là. Dans cette description, il y a le mot découragement qui est central. Découragement, oui, il y a une sorte de lassitude. Ici, de fatigue morale, de fatigue spirituelle. Il y a une foi qui est très faible, sans aucun doute, avec la perte, sans aucun doute aussi, de l'appréciation de la promesse que Dieu avait faite. On est dans le désert. Avait-il encore à ce moment-là, eux qui pensaient à revenir en Égypte, avait-il encore devant eux ce peuple, ce pays promis? Est-ce qu'il apparaissait comme un pays ruisselant de lait et de miel? Un moment où dans ce désert, bien, leur âme est dégoûtée. C'est comme une expression très forte. Hein, donc il y a quelque chose de très sombre ici qui est évoqué. Où est passé le premier amour? Il est où? Qu'est-ce qu'il en reste? C'est vrai, c'est une vraie question. D'autant plus que dans le paragraphe qui précède, alors je ne lirai pas pour faire vite, mais Dieu avait conduit son peuple à une victoire, juste avant. Et que dans leur souvenir, dans ce présent-là, à ce moment-là, ils ne pouvaient que rester sur le sentiment de quelque chose que Dieu avait conduit pour leur bien, une victoire remportée. Pourtant, eh bien, ils glissent dans cet état. Et cet état intérieur qui est enlevé ici, et je dirais même comme un leitmotiv, comme un refrain dans le livre des Nombres, hein, qui est à l'exemple de ce passage, est quelque chose d'assez voilà, assez difficile à lire quand même, hein, assez noir. Est-ce qu'il y a... Alors ce passage va amener Dieu à réagir, il y a voilà, ceux qui regarderont vers ce serpent brûlant, ceux qui ne regarderont pas. Donc, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a à la fois la solution, une réponse apportée par Dieu, et puis en même temps quelque chose qui est quand même de l'ordre d'un jugement. C'est un état de crise, comme il y en a dans ce livre des Nombres. Il y en a au moins 7, des états de crise, où chaque fois, si vous voulez, vous avez le peuple avec ce refrain qui fait entendre un murmure, au cœur duquel il y a toujours cette nostalgie, cette profonde nostalgie du pays d'Égypte, avec aussi des fois des crises très profondes, hein, de l'idolâtrie, par exemple. Et à chaque fois, pourtant, Dieu répond. Alors là, il y a... Soit on lit, si vous voulez, le livre des nombres comme une succession d'épreuves qui manifeste finalement un état, une sorte d'état incurable chez le peuple. Ce que c'est d'une certaine manière. C'est vrai. Mais on peut aussi y ajouter quelque chose qui me paraît être continu dans ce livre, c'est que justement dans ce désert, eh bien il y a une eau qui coule. Il y a un filet d'eau, si mince soit-il, qui coule dans le désert. Voilà, cette source éternelle qui ne tarit pas. Car à plusieurs reprises, on le voit déjà dans Exode 32, vous savez, c'est cet épisode, une autre crise. Moïse revient du mont Horeb où il a rencontré Dieu, et puis pendant son absence, eh bien, le peuple a érigé ce veau d'or, et Dieu fait entendre son courroux. Et Dieu se demande à ce moment-là, mais... voilà, on est quelques jours après la Pâque, qu'est-ce qu'ils font dès qu'on a le dos tourné? Il y a quelque chose, encore une fois, d'incurable. Pourquoi est-ce que je continuerai avec ce peuple? Et Moïse intervient, il intercède. Il intercède et il dit, mais tu ne peux pas te renier comme ça, tu ne peux pas, vis-à-vis des nations, te décrédibiliser. Qu'est-ce qu'elles vont penser, les nations, de toi, de ce Dieu qui a délivré? Et Dieu revient sur sa décision, il continue avec son peuple. Il continue avec son peuple comme il continue ici, comme il continue constamment dans le livre des nombres. Il y a ces deux choses. Ce qui provoque la crise du côté du peuple, une infidélité incurable, et puis Dieu qui maintient l'alliance. Cette alliance qui est plus forte que tout aux yeux de Dieu et qui fait que l'histoire de Dieu avec son peuple continue. Donc le livre des Nombres est certes cette succession d'épreuves pénibles, mais elle est aussi l'histoire, je le répète, de cette source éternelle, de ce filet d'eau, si mince soit-il, qui échappe totalement en plus à la perception, bien souvent, du peuple. Le peuple a-t-il conscience de cette grâce qui n'est pas éteinte, qui n'est pas étouffée par l'infidélité? Non. Mais Dieu a-t-il besoin de ça? Dieu a-t-il besoin de cette reconnaissance? On pourrait penser, à travers l'intercession de Moïse, ben oui, il faut quand même quelqu'un pour incliner le cœur de Dieu. On peut le lire comme ça. On peut le lire aussi autrement. Et j'essaierai de revenir là-dessus parce que ça me paraît essentiel. C'est que Moïse ici se fait l'intercesseur pour... que la relation avec un peuple et avec Dieu soit maintenue, l'intercession. Est-ce que ce n'est pas Jésus aussi qui a intercédé pour que le pardon de Dieu soit sur une humanité nouvelle, sur une église, sur un peuple nouveau? En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est annoncé à travers cette scène d'Exode 32, à travers ce passage où l'on voit ce serpent brûlant, et on sait bien comment c'est repris dans l'évangile de Jean, s'il n'y a pas justement des scènes qui annoncent quelque chose de plus grand? Bien sûr que si. À tous les endroits où le peuple a échoué, où le peuple a fait défaut dans sa fidélité, eh bien Dieu annonce déjà que malgré ça, il y a ce filet d'eau qui coule. Malgré ça, eh bien, il y aura une relation encore plus forte qui sera créée. Dieu ne renonce pas. Et aussi bien que ce serpent brûlant, c'est bien sûr une annonce voilée de la croix, comme l'intercession de Moïse est une annonce voilée de l'intercession de Jésus. D'autres termes, si je le dis un peu autrement, mais c'est absolument essentiel, et je vais essayer de rester sur ça. Le peuple accumule les erreurs, les échecs. Et Dieu accumule l'épreuve de grâce. Voilà. Et c'est la grâce, bien sûr, qui a le dernier mot. Alors, d'où est-ce que ça vient? Je vais pas la prétention de répondre, mais il y a, je pense, deux, trois peut-être passages de la parole qui peuvent nous éclairer. On peut revenir à Exode 14. Exode 14, et on peut prendre verset 31. Exode 14, verset 31. Et Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent à l'Éternel et à Moïse son serviteur. Juste pour situer les choses ici, on est donc avant ce chant de louange, de cantique nouveau d'Exode 15, et dans la scène, si j'ai lu en quelque sorte la conclusion, la scène qui précède le chapitre 14, on a donc le peuple d'Israël qui a fui l'Égypte, qui est poursuivi par les armées du Pharaon, qui est acculé. Au bord de la mer, et voilà, qui crie à l'Éternel, et l'Éternel intervient, et puis le peuple à ce moment-là voit, c'est important, 31, verset 31, Israël vit la grande puissance, il est témoin de ce que Dieu fait. Et quand on est témoin de ce que Dieu fait, eh bien, la suite, la conséquence, c'est aussi ce cantique qui suit. Ça me paraît un passage important parce qu'on voit ici que Dieu agit, que Dieu prend l'initiative, que Dieu écrit, sans que le peuple ne participe de quelque manière que ce soit, son histoire. Voilà, ce peuple qui est le sien, eh bien il le conduit à la délivrance. Et le peuple voit ça et il est dit, et ils crurent de l'Éternel. C'est une mention importante de la foi qui est tout simplement l'acceptation ou la croyance en ce que Dieu a fait, point. Dans l'Exode, dans Nombre 21, il est dit, ils regardèrent, on va relire peut-être le passage, le passage qu'on a lu ce matin, donc, voilà, quiconque, il arrivera, verset 8, il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, vivra. Voilà, là aussi, c'est Dieu qui a pris l'initiative, qui a conduit toutes choses, qui donne à Moïse un certain nombre d'instructions, et le peuple, pour vivre, doit regarder, il doit voir, il doit constater. Il ne participe en rien à cette chose-là. C'est le même acte de foi. Cet acte de foi, on l'a aussi lors de la croix du Seigneur Jésus. C'est dans l'évangile de Luc, sauf erreur, que le peuple voit, enfin que les gens voient à la croix, et c'est à ce moment-là qu'ils se frappent la poitrine. Mais il y a ce verbe « regarder ». Et ensuite, il y a autre chose dans la foi. Ça, je dirais, c'est peut-être une sorte de degré zéro, si vous me permettez l'expression. Ensuite, il y a la foi qui est celle qui accompagne le croyant dans le chemin. Celle-là, elle est différente. L'un des exemples les plus frappants que l'on a, c'est avec Abraham, à qui Dieu dit, va-t'en, quitte ton pays. Et Abraham s'en va, sans que le pays de Canaan ne soit encore, à ce moment-là, nommé. Là, c'est une autre foi. C'est la croyance, la foi en ce que Dieu dit, sans savoir exactement ce qui se cache encore derrière ce dire. C'est la promesse. Il y a quelque chose de fondamental dans cette relation de foi, c'est de croire en la promesse. Voilà, sans que l'on sache, c'est l'Épître aux Hébreux, hein, d'avoir cette espérance sans savoir ce qu'il y a derrière, si vous voulez. Il y a la promesse de Dieu, elle suffit en elle-même. Mais on croit en ce qu'on ne voit pas. Et Abraham, quand il quitte son pays, eh bien, ne sait pas ce qu'il va voir. Il ne sait pas ce qu'il va voir. Ça, c'est l'autre dimension, et c'est cette dimension de la foi qui pose, en quelque sorte, problème. C'est cette foi-là que l'on peut... Cette relation, je dirais, essentielle avec la promesse, qui fait qu'on perd peut-être le premier amour, j'ai envie de dire, une certaine densité, intensité de la foi, une certaine vie de foi, et qui fait que l'on glisse dans le découragement. Je vais prendre un autre exemple pour que les choses soient, ajouter un autre exemple pour clarifier encore cette notion. C'est dans Nombre 14. Nombre 13 déjà. Enfin, oui, je vais d'abord lire faire le lien inversé dans Nombre 14. C'est verset 11. L'Éternel dit à Moïse, jusque à quand ce peuple-ci me méprisera-t-il et jusque à quand ne me croira-t-il pas? Hein, croira-t-il pas, on retrouve ces notions de verbe croire, après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui. Je le frapperai de peste, etc. Puis ces notions de signes est reprise, verset 22. Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté ces 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, s'ils voient le pays que j'ai promis par serment à leur père, aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Alors pour comprendre comment Dieu en est arrivé à avoir cette déclaration extrêmement solennelle et forte, juste le petit rappel de la scène évoquée dans le chapitre 13. En chapitre 13, il y a des espions, donc on est encore dans le désert, hein, qu'on soit bien au clair là-dessus, on est encore dans le désert, et il y a des espions qui sont envoyés dans le pays de la promesse et qui sont chargés d'observer, de dire ce qu'ils voient, et puis d'en faire un rapport quand ils reviennent. Il y a Caleb qui conduit, si vous voulez, ce groupe d'espions. Et puis quand ils reviennent, eh bien le témoignage de Caleb est assez clair. Il dit, voilà, effectivement c'est un pays qui est occupé. C'est un pays qui sera sans aucun doute difficile à conquérir. Parce qu'il y a des géants, etc., etc. Les autres espions, tout au contraire, si vous voulez, affichent une peur. Ils disent, on n'y arrivera pas, hein. C'est pas possible de continuer, on n'y arrivera pas. Voilà, ce peuple, ce pays, bon, écoutez, nous on pense que c'est pas vraiment pour nous, c'est pas la peine d'insister. Dieu avait déjà annoncé qu'il donnerait le pays. D'ailleurs, c'est très beau de voir dans la parole que ce pays est essentiellement décrit comme un pays qui est donné par Dieu. Quand Dieu en parle, quand la parole en parle, c'est le pays qui est donné par Dieu. Et ça pourrait presque suffire comme description. Pourquoi est-ce que la parole n'en dit pas plus? Mais parce que justement aussi, là il y a cette confiance absolue, cette foi, cette croyance dans le fait que ce que donne Dieu, eh bien c'est autre chose que les dons dont nous pouvons parler, nous, entre les hommes. Le don de Dieu, c'est quelque chose d'une autre dimension. Et croire en ça, le comprendre, le rappeler, le voir. Il est question de voir, justement, dans cet épisode, les espions qui voient cette chose-là et puis qui s'arrêtent à ce qu'ils voient, ou un certain factuel, si vous voulez, une certaine réalité. Voilà. Menaçante pour eux, ils ont peur. Il y a le fait de voir autre chose, hein, et de voir au-delà des faits eux-mêmes, mais ce que la foi permettrait de voir, justement, ces notions de Dieu. Et alors Dieu, justement, encore une fois, voilà, on est dans cette crise, hein, du livre des Nombres, mais qu'est-ce que je vais faire de ce peuple-là? Il dit, voilà, il me méprise. Terme extrêmement fort, pourquoi? Parce que le fondement de la foi, il est là, quelque part. Hein, le fait de refuser ce que Dieu donne, eh bien, c'est on rejette Dieu lui-même, d'une certaine manière. Hein, c'est pas simplement le pays. Non, mais c'est tout le projet que Dieu a pour son peuple. Et c'est une remise en cause radicale de ce que Dieu a conçu en bien pour son peuple. Jusque à quand ne me croira-t-il pas après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? Cette notion de signes. Alors ces signes, eh bien, ils sont là. Hein, ils font partie de l'histoire du peuple. Il y a le passage de la mer Rouge. Bien sûr, les signes, on peut le comprendre un peu comme les preuves, mais les preuves tangibles, cette fois-ci. Hein, toutes les preuves, presque matérielles, hein, de la bonté de Dieu qui s'est manifestée à travers, jusqu'à changer la condition de vie du peuple. La manne, par exemple, est-ce que c'est pas un signe, ça? Bien sûr que si. Alors tous ces signes, il y en aurait d'autres à énumérer, hein, mais le problème, il est là. Il y a une sorte d'oubli, parce que le temps fait son travail aussi, une sorte de... Voilà, dans le découragement, il y a sans aucun doute une usure du temps. Hein, ce que Dieu a fait est quelque chose qui est recouvert dans notre mémoire. Et du coup, il y a quelque chose qui est perdu. Quelque chose qui est de l'ordre, justement, peut-être du premier amour. Le premier amour, c'est celui qui a encore sous les yeux l'éclatante évidence de ce que Dieu a fait. Quand cette évidence se perd, l'amour aussi, il a tendance à s'éteindre. C'est une source éternelle qui jamais ne tarira. Oui, je le rappelle, il y a quelque chose. Dieu ne renonce pas. Dieu ne renonce pas. Alors, par rapport à cette promesse, il y a quelque chose de très fort aussi dans ces passages. Hein, c'est-à-dire que ce que ça nous dit, nous, on aimerait bien que le pays, il soit débarrassé des ennemis, qu'il n'y ait plus d'obstacles pour y aller. Hein. C'est un petit peu comme si le peuple disait. Ouais, on va y aller quand tu auras plus d'ennemis. Ce sera plus simple. On va y aller à ce moment-là. Donc on attend un peu, voilà. Sagement, mais on attend. Un peu passif. Mais ce n'est pas du tout ça le contrat, la relation entre la foi et la promesse. Ce n'est pas du tout ça. C'est engage-toi, au contraire, et tu verras à ce moment-là, à travers cet engagement, combien Dieu est présent dans ces combats-là. C'est ça la foi. Et c'est ça qui maintient d'une certaine manière aussi justement cette relation avec un Dieu qui est avec nous, qui nous accompagne. Je vais juste, puisque j'ai parlé de ce passage, m'a été sur une relation très forte, me semble-t-il, entre... Alors, j'ai essayé de le dire un petit peu entre le livre des Nombres et puis... ces crises, puis les solutions qui sont suggérées par Dieu, et puis les évangiles, bien sûr, qui, encore une fois, est à lire comme l'aboutissement de ce que Dieu a maintenu en secret de tout temps, par grâce, par amour. Hein, ce filet d'eau qui va devenir une source beaucoup plus puissante dans la personne de Jésus. Mais j'aimerais revenir pour souligner un peu ce lien sur le chapitre 2 de Josué. va lire le verset premier. Donc Josué envoya secrètement de Sittim deux espions, disant « Allez, voyez le pays de Jéricho ». Et ils s'en allèrent. Juste pour introduire ce passage. C'est quand même étonnant ici, la situation et enfin, l'analogie avec ce que nous avons lu dans Nombre 13 est évidente. D'accord, on n'est pas encore tout à fait dans le pays, on va y entrer. Et avant d'y entrer, voilà, on aimerait bien avoir cette confirmation, cette preuve que ce pays que Dieu donne est bien le bon. Donc Josué, comme il a été fait dans Nombre 13, envoie des espions. Bon, regardez, c'est le même pays qu'ils explorent. D'accord, donc là, la scène est rejouée. C'est important, ça. Enfin, je trouve ça essentiel. C'est comme la scène avec le serpent brûlant qui est élevé sur un bâton, sur une perche. Elle va être rejouée avec Jésus, le Fils de l'homme, qui sera élevé sur la croix. Pourquoi ? Bien, encore une fois, pour les mêmes raisons, parce que la première n'était que l'annonce, la préfiguration de quelque chose de plus grand, de plus abouti. La première scène avec les espions, pour le peuple, c'était un échec total. D'accord, il n'y a eu que la peur de ce qu'ils avaient gardé, de ce qu'ils avaient vu. La peur, et puis ce refus d'entrer dans le pays. Et là, on va voir que, finalement, en rejouant la scène, eh bien, Dieu reprend les choses en main, il les conduit de manière beaucoup plus forte. Donc la main de Dieu est beaucoup plus présente, on peut essayer de le montrer, mais justement pour opérer un dépassement. C'est-à-dire que là, précisément, là où le peuple a échoué, eh bien le peuple va réussir. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a toujours cette source éternelle qui jamais ne se taillera. D'accord ? C'était cette grâce qui ne peut pas être mise sous l'été noir, malgré tout ce que fait le peuple pour l'éteindre. Ça dit encore une fois, alors je me répète, voilà, mais il y a des paroles comme ça que la parole nous invite à répéter, mais il y a quelque chose qui est plus fort que l'infidélité du peuple, plus fort que le découragement, plus fort que cette succession d'épreuves. Voilà, c'est cet attachement de Dieu à l'Alliance, à sa propre promesse, et c'est par grâce, si vous voulez, que cet attachement peut déboucher justement sur quelque chose et que ce que Dieu a promis peut se réaliser. Donc, si on continue la lecture dans Josué 2, donc il y a des espions qui vont se réfugier chez Rahab. Ensuite, celui qui, je ne sais plus comment il est nommé, le roi de Jéricho, verset 3. Voilà, il a entendu dire, oh là là, il y a des espions, il y a quelque chose qui se prépare. Donc il envoie ses hommes chez Rahab. Il dit, ils sont où ? Et puis Rahab, non, ils sont déjà partis. Alors ils étaient encore là. Le mensonge pour la vérité, c'est un beau sujet aussi d'ailleurs, mais bon, passons. Et Rahab les protège. Rahab les protège. Et ensuite, verset 8, je continue. Avant qu'ils se couchassent, elle monta vers les hommes sur le toit et leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur de votre nom est tombée sur nous et que tous les habitants du pays se fondent devant vous. Car nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous lorsque vous sortiez d'Égypte. Etc. Ça, c'est... Je sais. Alors n'oublions pas que Rahab est Rahab, d'accord, c'est pas une Israélite. C'est même une femme, voilà, elle est nommée, c'est la prostituée. Et elle dit cette parole, je sais que l'Éternel vous a donné le pays. C'est pas le peuple, si vous voulez, qui, à ce moment-là, est capable de prononcer la promesse, de formuler mot à mot la promesse de Dieu. C'est pas eux. ils ont échoué. Ils ont perdu de vue cette promesse. Et Dieu se sert, il n'y a pas d'autre mot ici, de Rahab pour que cette parole soit entendue. D'accord ? Je sais que l'Éternel vous a donné le pays. Quel pays ? C'est encore une fois le don ici qui est mis en avant. D'accord ? Vous a donné le pays. Imaginez pour les Juifs, pour les Israélites, ce que cette parole ici a de totalement renversant. Hein. D'accord ? Qu'est-ce qui leur ouvre la porte du pays ? Qu'est-ce qui fait sauter, si vous voulez, le verrou pour qu'ils partent à la conquête de ce pays de Canaan et que cette conquête devienne possible ? C'est pas eux, c'est pas eux avec leur armée, c'est pas eux avec leur foi, c'est pas eux avec avec le souvenir des signes de ce que Dieu a produit. Non, c'est Rahab. On voit le détour qui là encore est un détour de grâce, le détour que prend Dieu, voilà, pour que sa promesse ici s'accomplisse. Il y a à la fois quelque chose d'un peu, il y a à la fois la faiblesse, mais je trouve qu'on est presque dans une scène d'évangile, parce que Rahab, on sait bien que ce profil de personnage apparaît dans les évangiles. Hein, on est presque dans les évangiles dans le sens où ce sont un peu ceux qui sont laissés sur le bord du chemin, ceux qui avaient une conduite immorale, ceux qui étaient des pécheurs profonds, voilà, qui vont être là, au tombeau, pour voir que Jésus est ressuscité. Ce sont ces personnages-là qui vont répandre du parfum sur la personne de Jésus. Voilà, là, il y a quelque chose à ne pas oublier. Qui devrait interroger profondément aussi, toute prétention que nous pourrions avoir quant à la conduite du peuple. Hein, il y a à avoir une confiance, si vous voulez, dans la promesse, c'est vrai. Mais après, Dieu conduit les choses aussi. Là, le combat à la conquête du pays, il commence avec cette scène-là. C'est le premier combat. Et encore une fois, c'est pas le peuple qui le mène. Hein, mais le peuple a au moins ce désir d'entrer dans la possession du pays donné. C'est, je dirais, exactement la même chose avec la victoire sur Jéricho. Alors c'est assez intéressant parce que on a c'est au chapitre 6. Jéricho était fermé et avait barré ses portes devant les filles d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Donc c'est le verrou, hein. C'est la forteresse, c'est quelque chose d'imprenable ici. Et il est dit un peu plus loin, si je me souviens bien, que les fils d'Israël sont armés. Enfin, il y a comme une préparation militaire. Donc on peut s'attendre avec cette introduction qu'il y a un combat. Le combat n'a pas lieu. Non, c'est l'arche. C'est l'arche. Les Israélites font avec les sacrificateurs ce que Dieu leur demande de faire, et c'est les Israélites qui font tomber, qui font sauter cette forteresse. Donc là, on voit encore comment le peuple, si vous voulez, épouse tout simplement la voie que Dieu ouvre, mais que c'est la voie de la victoire, elle est ouverte par l'arche, hein, comme elle l'a été pour le Jourdain, par exemple. Cette présence de l'arche, cette présence, active, hein, qui n'est pas juste comme ça quelque chose que l'on emmène avec soi, non, mais qui devance, qui fait que les eaux deviennent sèches. Voilà, là, il y a tout d'un coup, avec ce livre de Josué, comme si Dieu prenait en main lui-même l'histoire de son peuple pour le conduire, et puis pour l'amener à remporter des victoires là où, justement, le peuple avait échoué. Voilà, il y a ce renversement extraordinaire. Et on voit dans le verset 9 que j'ai lu, on voit la terreur de votre nom est tombée sur nous et que tous les habitants du pays se fondent devant vous. Voilà, la peur ici, la terreur a changé de camp, hein. Voilà. Et comment est-ce qu'elle a changé de camp? Eh bien, tout simplement parce que tous les habitants du pays se font devant vous, car nous avons entendu comment l'Éternel. Nous avons entendu comment l'Éternel. Si on traduit en d'autres mots, c'est la rumeur ici. Hein. Il se dit de vous que vous avez un Dieu qui a opéré de grandes choses. On dit ça de vous. C'est comme dans l'Épître aux Thessaloniciens, il y a un passage magnifique aussi, où voilà, ce que Dieu a fait est colporté. Et que ça crée, ça épaissit, si vous voulez, les rangs de l'Assemblée. C'est dans le chapitre 1, tout au début. Là, il y a quelque chose de remarquable, parce que du côté du peuple, il y avait quoi? C'était quoi l'équivalent de cette rumeur? C'était le murmure, hein, d'accord, qui revient comme une ritournelle, voilà, dans son histoire, des nombres surtout. Et là, ben, les choses sont inversées. La peur change de camp et la rumeur, elle précède. Elle précède tout. Et elle crée ça, elle ouvre ses portes. Voilà, je repense encore à ce verset, c'est une source éternelle qui jamais ne tarira. On voit ça pourrait, ça j'essaie de le dire avec foi, ça pourrait changer notre manière de considérer les choses. Notre erreur, si vous voulez, si on s'appuie sur ce que nous dit la parole. C'est bien d'avoir ces crises successives et de nous laisser aller à un découragement. Même si ce n'est pas sans raison, hein, parce que le désert reste le désert, etc. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais on peut le comprendre. On peut le comprendre, et ce découragement qui ne voit pas ce qu'il y a peu derrière, ce qu'il peut y avoir derrière ce terme, ce que ça peut évoquer. Avec notamment la nostalgie du premier amour, soit il y a quelque chose qui est perdu. Il y a quelque chose de ce que Dieu a fait qu'on ne voit plus, qui n'est plus manifeste. Soit. Ça, c'est notre point de vue à nous. C'est ce que nous voyons. Après, on peut, avec foi, voir autre chose. Et ça peut être aussi la réponse de foi. Ne pas forcément, je vois des fois un peu quand on lit le livre des Nombres, nous attarder, voilà, avec parfois peut-être une certaine complaisance. Je sais pas, je me permets de le dire, si je vais trop loin, vous ferez le tri. Mais sur ce qui est de un peu mortifère, si vous voulez, dans cette infidélité. On est exposé à ça, voilà. Mais il y a quelque chose qui nous permet d'aller au-delà, c'est de ne pas s'arrêter aux faits, de ne pas s'arrêter à ce qui est factuel, à ce qui ne va pas, à ce qui manque. Simplement, même si c'est sans doute nécessaire de le voir. Hein? Mais la réponse, elle est aussi ailleurs. Ce qui peut répondre au découragement, ce qui peut nous encourager, est-ce que c'est pas justement cette permanence du côté de Dieu, de la fidélité, et que Dieu a été fidèle pour répondre toujours et aller au-delà de l'infidélité du peuple? C'est pas la même mesure, hein? Et notre regard ne vaut pas grand-chose à côté du regard que Dieu a sur nous. Hein, il y a dans la parole une mise en tension constante, je dirais, entre les deux choses. La manière dont nous voyons les choses et la manière dont Dieu les voit. Voilà, il y a un fossé entre les deux. Mais c'est avec foi que l'on peut s'approcher du regard de Dieu. et considérer que ces échecs, ces crises, ces périodes difficiles, ces moments de découragement, eh bien, sont l'occasion aussi pour Dieu, pour peu que nous engagions aussi, que nous retrouvions peut-être cette voie de l'engagement, pour Dieu d'aller plus loin. Moi, je suis, parfois bouleversé de voir que l'Ancien Testament, finalement, c'est déjà une voie de grâce, bien sûr, mais c'est une préparation à quelque chose de plus grand. Et que les exemples sont nombreux. Les exemples sont nombreux. On sait bien qu'il y a des échos, des correspondances. Voilà. La tentation de l'homme, hein, bien sûr, la Genèse. Et puis la tentation qu'affronte Jésus au début des évangiles, qui est face au tentateur, face au diable. L'échec, la réussite. Ce serpent qui est monté sur une perche, le Fils de l'homme élevé sur le bois. Voilà, et puis on pourrait donner certainement d'autres exemples, mais ça montre aussi là que depuis le début jusqu'à la fin, Dieu a quand même une certaine hauteur. Hein. Et heureusement qu'il l'a pour nous, parce que autrement l'histoire se serait arrêtée bientôt. Et la parole montre justement qu'à bien des reprises, Dieu avait des raisons de tout arrêter. C'est dit à plusieurs reprises hein, dans le livre des Nombres. Il me méprise, ce peuple me méprise. Pourquoi est-ce qu'on continuerait avec ce peuple-là? Voilà, est-ce que c'est... Alors je dirais que c'est... Ce sont des questions qui méritent d'être entendues, bien sûr, parce qu'il y a du côté de Dieu certainement une déception. Mais ce sont des questions aussi qui sont posées parce qu'il y a une réponse à ces questions. Voilà, et que la réponse, elle vient du côté de Dieu. Hein, et que Dieu répond au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Voilà, pourquoi? Pourquoi? Ben parce que justement, il y a cette source éternelle qui jamais ne tarira.
Rapidement, je voudrais juste revenir sur des choses auxquelles tu as fait allusion, Jean-Marc, dans le livre de l'Exode. Et je voudrais juste dire d'abord, dans le chapitre 19 de l'Exode, le peuple a donc traversé la mer Rouge. Il est maintenant dans le désert, en route vers le Sinaï. Verset 4. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Éternel et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. » Et Moïse vint et appela les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Nous avons peu de choses qui nous est dit avant, mais quelles choses? Vous avez vu, je vous ai amené à moi, maintenant vous écoutez ma voix, gardez mon alliance. Et je vous donnerai, vous me serez un royaume et une nation sainte. Mais au fond, quelque part, en disant tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, le peuple, c'est comme s'il signait un chèque en blanc. Ils ne connaissent pas la mesure de Dieu. Alors si on tourne quelques pages, au chapitre 20, Moïse leur donne le contenu de la loi. Chapitre 20, je ne vais pas le lire. C'est les 10 commandements, et puis chapitre 21, 22, 23 nous donne toute une série d'ordonnances associées à ces 10 commandements. Et au chapitre 24, Moïse était sur la montagne, a reçu les tables de la loi, non pas encore, il n'a pas encore reçu les tables de la loi, mais il a reçu les commandements, et il vient, il rapporte, verset 3, Moïse vint et raconta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances, donc le détail de ces chapitres qui précèdent. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons. Donc maintenant, ils connaissent la mesure. Si je reprends l'image du chèque, le chèque n'est plus blanc, il y a le montant qui est marqué dessus. Et il signe. Et Moïse écrivit toutes les paroles d'Éternel. Il se leva de bon matin, bâtit un autel au pied de la montagne, dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Je passe la suite. Il y a ce sang qui est évoqué dans l'Épître aux Hébreux. Il prit le livre de l'Alliance, le lut aux oreilles du peuple. Tout le peuple entend le détail de toutes les ordonnances. Et ils dirent, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écoutons. Alors si on revient sur les commandements qui ont été donnés, qui dans ce peuple s'est posé la question, mais sommes-nous capables de tenir ces commandements-là? Et on a fait une allusion tout à l'heure à Exode 32, le veau d'or, c'est le premier commandement qui est bafoué, le premier commandement. Si on relit juste au chapitre 20, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, verset 2, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est quoi ce veau d'or? C'est un autre Dieu. « Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux, en haut de ce qui est sur la terre, etc. » Voilà, les deux premiers commandements mis de côté. Et la conclusion... La première conclusion du chapitre 32, c'est que Dieu va juger le peuple. Et on a l'intercession de Moïse. Et c'est cela que je veux retenir uniquement, c'est suite à cette intercession de Moïse, chapitre 33, verset 17, « L'Éternel a dit à Moïse, je ferai cela aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Et l'Éternel accepte de conduire, malgré tout, le peuple vers le pays d'Israël. Qu'est-ce que je veux dire avec ces passages? C'est que ces crises qu'on a vues dans le livre des Nombres, qui sont dans le désert, et après dans le pays, on aura le livre des Juges, bien des crises, puis le temps de Saül, puis jusqu'à la déportation, puis encore plus loin. Tout ce qui suit est basé sur la grâce de Dieu. Nous voyons toujours Israël associé à la loi. Mais si Israël avait été vraiment, entièrement associé à la loi, au veau d'or, après le veau d'or, le peuple ne subsisterait plus. C'est sur un principe de grâce que Israël peut continuer le chemin. Et si on transpose aujourd'hui à l'Église, l'Église, si on peut dire comme ça, est née sur un principe de grâce. Christ a été fait péché pour nous. Christ a réuni en un les enfants de Dieu dispersés. Tout est de lui. Et à négliger et à oublier et à perdre de vue la grandeur de ce principe de grâce, l'Église est aujourd'hui dispersée. Ces crises, effectivement, tout est dans cette abondance de l'amour de Dieu. Tout est dans cette abondance de la grâce de Dieu. On ôte un seul gramme, je prends des grammes, on peut prendre n'importe quoi, à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, tout s'écroule. L'amour de Dieu, ce verset du Cantique m'échappe maintenant, mais que tu relevais, c'est ça ce qu'il veut dire. L'abondance de la grâce de Dieu, l'abondance de l'amour du Seigneur, l'abondance de cet amour quand il est allé à la croix, quand il a vaincu l'ennemi, quand il a vaincu la mort, quand il est sorti vainqueur. Et c'est ça la seule base, le seul fondement. Nous voyons Israël, le peuple d'Israël, comme peuple sous la loi. Oui, ils avaient dit tout ce que l'Éternel, nous le ferons. Mais de fait, ils subsistaient par la grâce de Dieu et pas autrement. Et nous de même.
Chers amis, je pourrais ajouter peut-être encore une petite pensée. Nous avons maintenant entendu quelque chose de cette grâce de Dieu, de son amour, de l'amour du Seigneur. Et dans notre cantique, et cela m'a aussi frappé, oui, touché un peu, c'est à la fin que nous avons chanté dans notre cantique que notre amour pour lui, pourquoi ? Parce que son amour est là. Son amour est là. Et notre amour est seulement une réponse à son amour. Et cela, chers amis, c'est quelque chose qui nous concerne chacun personnellement. Nous avons tous reçu cet amour, cette grâce, nous qui connaissons le Seigneur, et le Seigneur a vraiment le droit, si j'ose dire ainsi, le droit d'attendre notre amour pour lui. Et comment est-ce que nous pouvons montrer notre amour pour le Seigneur ? Le Seigneur le dit, nous connaissons très bien ce passage que nous trouvons en Jean 14. Si vous m'aimez, et c'est ce que nous voulons bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Et puis encore cet autre passage, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Chers amis, ce n'est pas quelque chose qui vaut vraiment notre amour, que de voir que Dieu même se manifestera à nous. On aura cette relation, ce contact avec Dieu lui-même, cette communion que Dieu veut avoir avec nous, et il nous la promet, pour ainsi dire, le Seigneur nous promet cela quand nous l'aimons et le montrons par notre obéissance au commandement. Et encore un peu plus loin, il est parlé non seulement du commandement, mais le Seigneur se prononce d'une autre façon au verset 23. Ce sont des versets que nous connaissons tous bien. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Garder le commandement, c'est une chose, mais garder la parole, c'est encore une autre chose. Garder le commandement, c'est quelque chose, le Seigneur a dit cela, nous l'avons lu, nous le faisons. Nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur et nous voulons lui plaire. Et alors peut-être la situation vient pour nous, les jeunes peut-être surtout, mais qu'est-ce que le Seigneur me demande ? Est-ce que je sais exactement ce que le Seigneur me demande ? Et quelquefois on dit même, oui alors là, quant à cette question-là, je n'ai rien trouvé là, je n'ai pas trouvé un commandement. Il n'y a pas de commandement là dans la parole. Et aujourd'hui, dans notre temps moderne, bien sûr, il y a des choses pour lesquelles, bien sûr, nous ne trouvons pas un commandement direct. Tu ne dois pas employer cet appareil, tu ne dois pas, etc. On n'en trouve pas. Alors, on se demande peut-être comment est-ce que je peux, j'ai pas un commandement. Et alors j'ai autre chose. J'ai la parole qui gardera ma parole. Et qu'est-ce que c'est ma parole ? Ce n'est pas simplement dire c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire les Saintes Écritures, mais ma parole, c'est ce que le Seigneur a montré, a dit, et que nous avons pu comprendre ce qui lui plaît. Oui, nous savons bien qu'il y a des choses qui plaisent au Seigneur sans que ce soit écrit comme un commandement. Un exemple m'a toujours un peu touché, je veux simplement vous dire, et terminer après. Alors une petite fille qui revient de l'école, et alors sa maman est là devant la maison, parle avec une voisine, et elle remarque, la petite remarque que la maman ne va pas très bien, et elle entend aussi qu'elle le dit à la voisine. Bon, elle dit bonjour, et puis la maman lui dit, écoute, tu vas s'il te plaît ranger la cuisine. Là, les choses qui sont arrangées. Alors l'enfant va, et puis elle voit, elle fait ce que la maman a demandé, et puis elle regarde dans l'autre chambre, ah, il y a encore quelque chose à faire, il y a encore ça. Alors là, il y avait encore quelque chose. Et elle comprend que cela plairait à sa maman qu'elle fasse encore autre chose. La maman ne t'a pas donné de... n'a pas donné de commandement. Elle aurait pu aller jouer après, mais elle le fait quand même. Elle a gardé le commandement, mais elle a surtout aussi gardé la parole de sa maman. J'espère que vous me comprenez. Voilà ce qui est très important et très utile et pour la joie du Seigneur quand nous gardons sa parole, parce que nous savons intérieurement, par la lecture que nous faisons de la parole, par la communion que nous avons avec le Seigneur, ce qui lui plaît, et de le faire. Je voudrais ajouter ça encore, parce que ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu pour nous tous, pour son peuple, pour son assemblée. Et chers amis, il y a aussi cet amour pour chacun de nous. Et la réponse... la réponse que l'Assemblée peut donner, c'est la réponse de chacun de nous. Ce n'est pas quelque chose de flou, l'Assemblée, oui, tout entière. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Assemblée, c'est-à-dire, moi, je suis concerné, et mon frère à côté, et nous tous, nous sommes concernés aussi quand il s'agit de l'Assemblée. Donc, aimons chacun de nous, le Seigneur, et montrons-le.
Chantez le cantique 79. 79.
Oh. La strophe 2 du 142. 142, strophe 2.